La mort de Christ serait inutile si, après qu'il soit mort pour tous les hommes, ceux-ci devaient encore être jugés et condamnés pour les péchés qu'il a portés et pour lesquels il est mort. Les croyants seront jugés, c'est-à-dire évalués, d'après ce qu'ils auront fait des choses, des occasions, etc. qui leur ont été données pour travailler à établir le royaume de Dieu. Page 27. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché que les non-croyants iront en enfer. Si tel était le cas, les croyants iraient aussi en enfer, car eux aussi ont péché. Les non-croyants iront en enfer parce qu'ils ont refusé d'accepter la réponse de Dieu au problème du péché, cette réponse qui est la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Jésus a dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, 7-11. Point. Oui, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en Christ. En fin de compte, le péché est le refus de croire au Seigneur Jésus. Tous ceux qui ne croient pas en lui seront jugés pour n'avoir pas cru en lui et non pas pour leur péché. Frères, nous avons fait une erreur tragique. Nous avons proclamé le péché de l'homme. Nous avons proclamé que l'homme est idolâtre, fornicateur, voleur, tricheur, ivrogne, etc. Nous avons fait comme si ce péché était le point déterminant de la condamnation, comme si, sans ce péché, l'homme pouvait être déclaré juste. Or, le problème n'est pas la présence des œuvres de la chair. Le problème, c'est l'absence de Christ. Ce dont l'homme a besoin, ce n'est pas que le péché soit absent, mais que Christ soit trouvé présent. Dans la plupart des religions, on met l'accent sur le péché de l'homme. Dans le christianisme, on ne devrait pas réellement mettre l'accent sur le péché, mais sur Christ. Le christianisme, c'est Christ. Le salut, c'est Christ. Connaître Dieu, c'est Christ. La vie éternelle, c'est Christ. Le pardon du péché, c'est Christ. Le christianisme, c'est Christ. Oui, Christ incarné sur la croix, Christ ressuscité, Christ sur le trône, Christ revenant, Christ régnant dans le millénium, Christ régnant pour l'éternité. Le christianisme, c'est aussi l'homme en Christ, l'homme sur la croix, l'homme ressuscité, l'homme sur le trône, l'homme revenant, l'homme régnant avec Christ, pendant le millénium, l'homme sur le trône éternel, d'éternité en éternité. Page 28. Pour prêcher l'Évangile, nous devons prêcher Christ dans sa totalité. Pour prêcher l'Évangile, nous devons prêcher l'homme en Christ dans la totalité de Christ. L'homme en Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris avec lui et en lui tous nos péchés. Il a aussi pris en lui tout notre être, notre vieille nature et l'a crucifié sur sa croix. Ensuite, ressuscité, il nous a pris en lui. Aussi, tout ce qu'il a vécu, de la croix au trône, nous l'avons aussi vécu. Ainsi donc, nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts en lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous vivons avec lui, nous avons été intronisés avec lui. Notre intronisation est une réalité. Nous sommes assis sur le trône avec Christ et en Christ. La Bible dit en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 20-23. Nous sommes en Christ, il est sur le trône, nous aussi, nous sommes sur le trône. Il est au-dessus de toute domination, nous aussi, nous sommes au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité, nous aussi nous sommes au-dessus de toute autorité, il est au-dessus de toute puissance, nous aussi nous sommes au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute dignité, nous aussi nous sommes au-dessus de toute dignité, il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer, nous aussi nous sommes au-dessus de tout nom qui peut se... Page 29. Nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Tu es en Christ, tout ce que Christ a, tu l'as, tout ce que Christ est, tu l'es devenu. La Bible dit sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, 6-7. Oui, celui qui est mort est libre du péché. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Alors, je suis libre du péché. Je suis libre du péché. Je suis libre du péché. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Romains 6, 22. J'ai été affranchi du péché. J'ai été affranchi du péché. J'ai été affranchi du péché. Je ne pouvais pas m'affranchir moi-même du péché. Quelqu'un d'autre m'a libéré du péché. J'étais lié. Je ne pouvais pas me libérer du péché. Mon libérateur est venu. Maintenant, je suis libéré. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Chaque croyant est libre du péché. La parole de Dieu dit que le croyant a été affranchi du péché. Je suis un croyant, j'ai donc été affranchi du péché. Je suis libre. J'écoute le témoignage de Dieu me concernant. Je n'écoute pas les accusations du diable. Je ne regarde pas à mon expérience. Je regarde Seigneur. Je me rappelle une histoire que j'ai lue il y a longtemps. Deux jeunes gens étaient enfermés dans une cellule. La cellule se trouvait près d'un mur. Un des jeunes hommes regarda dehors et fixa ses regards sur le mur à l'extérieur qui était sale et repoussant. Alors qu'il fixait le mur, il devint très triste et misérable. Le deuxième regardait aussi dehors, mais il concentra ses regards sur le ciel bleu et se sentit dans une grande joie. Ils étaient dans la même situation. Tous deux étaient en prison. Ils pouvaient tous les... Page 30. De fixer leurs regards sur le mur ou sur le ciel. Ils ont fait leur choix et ont fixé leurs regards sur ce qu'ils avaient choisi. L'objet sur lequel ils ont fixé leurs regards a eu un profond impact sur leur vie intérieure et sur leur expérience. Le croyant peut concentrer ses regards sur trois choses, les accusations du diable, son expérience personnelle, le témoignage de Dieu à son sujet. S'il fixe ses regards sur le témoignage de Dieu le concernant, il sera intérieurement transformé par ce que dit ce témoignage. S'il fixe ses regards sur le témoignage du diable, il deviendra ce que dit ce témoignage, et s'il fixe ses regards sur sa propre expérience, sur ce qui se passe en lui jour après jour, minute après minute, il deviendra progressivement ce qu'est ce témoignage. Chaque croyant doit décider sur quel objectif il va fixer ses regards. Par cette décision, il choisira ce qu'il deviendra. J'ai choisi de croire au témoignage de Dieu me concernant, et je dis je suis mort avec Christ, j'ai été enseveli avec lui, je suis ressuscité avec lui, je suis monté au ciel avec lui, je suis sur le trône avec lui, je ne peux pas pécher, parce que la nature de Dieu habite en moi, je puis tout par Christ qui me fortifie. Qu'en est-il de ma chair? Qu'en est-il de mon vieil homme? Qu'en est-il de ma nature de péché? Voici le témoignage de Dieu, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 6. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 11. Page 31. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 14. Donc moi aussi j'ai été rendu parfait. Je suis parfait. Moi aussi, Zach. Fumum. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 10, 10. La croix, mes maladies et mes infirmités, pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Une des raisons pour lesquelles il est venu sur la terre, c'est qu'il devait détruire toutes les œuvres de Satan. La Bible dit le Fils de Dieu, apparu afin de détruire les œuvres du diable, Jean 3, 8. Les maladies et infirmités sont des œuvres du diable. Quand Jésus est allé à la croix, il n'a pas seulement porté tous les péchés du monde entier. Il a aussi porté les maladies du monde entier, passé, présent et à venir, et les a toutes ôtées. La Bible dit cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Esaïe 53, 4-5. La Bible dit encore « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice » Pierre 2, 24. La Bible dit aussi « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies » Matthieu 8, 16-17. Il est encore, écrit mon âme, bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui, page 32, rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, psaume 103, 1-5. Jésus a porté tes infirmités et tes maladies sur la croix. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Dieu pardonne toutes tes iniquités et il guérit toutes tes maladies. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais porter une quelconque maladie que Christ a portée. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais porter une quelconque infirmité alors qu'il t'a guéri. Le Seigneur l'a fait sur la croix. La croix fut le lieu de jugement pour Satan, pour le monde, pour la chair, pour toutes les infirmités et maladies. Il n'est pas possible que la croix ait été efficace pour certaines maladies et inefficace pour d'autres. Dieu a fourni une solution pour rétablir tout ce qui avait été déformé en Adam. Il y a pourvu par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Tu peux entrer en possession de ce que Jésus a fait, maintenant, par la foi, et commencer à jouir de ce qui est à toi, ou bien tu peux douter et attendre. Tout ce que nous savons, c'est qu'il n'y a, dans le monde, aucune maladie qu'il n'a pas portée, car il a porté toutes les maladies. Il est attristé lorsque les gens portent encore leur maladie comme s'ils n'étaient pas morts, ou bien comme s'ils devaient mourir une seconde fois. Il ne mourra pas une seconde fois. Jésus nous invite tous à entrer dans la guérison qu'il a pourvue. Après avoir été guéri, il invite celui qui a été guéri à entrer dans la santé qu'il a pourvue. Il y a encore un choix, nous pouvons regarder à nos maladies, nous pouvons écouter la voix du monde, ou bien nous pouvons nous tourner vers le témoignage de Dieu concernant son Christ et l'œuvre accomplie sur la croix. Tous les enfants de Dieu seront finalement libérés complètement de tout péché, de toute maladie, de toute infirmité, du diable et du monde. Ceci arrivera lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans la page 33, gloire et la puissance. Cependant, pour le moment, Dieu appelle ceux qui veulent s'approcher dans la foi et croire à sa parole à entrer en possession de tout ce qu'il a en réserve pour eux. Il nous invite à commencer à en jouir, à avoir un avant-goût des siècles à venir. Le but de ce livre est que chacun parvienne à coopérer avec Dieu pour entrer dès maintenant dans son héritage. Chacun doit croire en la parole, rejeter toute expérience qui est en contradiction avec la parole, rejeter tous les mensonges du diable, espérer contre toute espérance, entrer dans le combat de la foi et finalement entrer dans le repos de la foi. Que le Seigneur conduise chaque lecteur à entrer dans ses richesses. Elles vous appartiennent. Amen. Page 34, chapitre 2. La croix est notre héritage. Tout ce que le Seigneur Jésus a acquis sur la croix peut devenir la possession du croyant. Cependant, tout ce que le Seigneur a acquis n'est pas transmis au croyant d'une manière entièrement automatique à l'instant où il est régénéré. Son héritage peut être divisé en trois parts. La première part de l'héritage sera automatiquement donnée au croyant sans intervention particulière de celui-ci. La deuxième part deviendra la sienne à condition qu'il fasse un effort pour s'en saisir. La troisième part deviendra la sienne si le croyant combat par la foi pour s'en emparer. Ainsi, pour qu'un croyant acquière la totalité de son héritage, il doit combattre le bon combat de la foi. Page 35. Le rachat par la croix, par sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus a acquis pour nous les choses suivantes. La victoire sur Satan, victoire sur le monde. Délivrance du péché. Guérison de toutes les maladies et la santé parfaite. Le Seigneur a payé pour toutes ces choses. Il l'a fait en accomplissant un seul acte, la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Il y a eu une seule mort, et Dieu a fait en sorte que cette mort unique soit suffisante pour tous les besoins de l'homme. Il n'y aura jamais plus d'autres morts semblables, car la croix a été un acte qu'on ne pourra jamais répéter. Dans son plan divin, Dieu avait prévu que quiconque viendrait au salut par le Seigneur Jésus-Christ recevrait et entrerait dans la victoire de Christ sur Satan et le monde et qu'il serait totalement délivré du péché et guéri de toutes ses maladies. Dieu voulait que toutes ces choses soient reçues d'un seul coup car elles sont toutes en Christ. Malheureusement, la prédication de la parole est souvent incomplète et nombreux, parmi ceux qui sont sauvés, ne savent pas que le Seigneur a pourvu à la délivrance du péché pour eux. Alors ils vivent dans la défaite pendant longtemps après avoir été sauvés. D'autres ne savent pas que le monde a été jugé, que Jésus a vaincu le monde et que, par la foi au Seigneur de la croix, eux aussi ont vaincu le monde. Ainsi, par ignorance, ils essaient de vaincre le monde et ils échouent complètement. D'autres encore pensent que Satan est très fort et qu'ils ne peuvent pas le vaincre. Ils ignorent que sur la croix, le Seigneur l'a livré publiquement en spectacle et a triomphé de lui une fois pour toutes. Ils savent encore moins qu'en Christ, ils sont assis dans les lieux célestes bien au-dessus de Satan. D'autres ne savent pas que Jésus a ôté leur maladie aussi bien que leurs péchés et que, de même qu'on peut être débarrassé des péchés, on peut aussi être débarrassé des maladies. Page 36. Comment peut-on entrer dans notre héritage? Il y a 5 étapes par lesquelles le croyant doit passer pour entrer dans son héritage. Ce sont voir et connaître ce que Dieu a accompli. Croire à ce que Dieu a accompli. S'engager dans ce que Dieu a accompli. Combattre le combat de la foi. Entrer dans le repos de la foi. Voir et connaître ce que Dieu a accompli. Il faut d'abord savoir ce que Dieu a accompli par la mort de son Fils sur la croix. Une personne ne peut pas entrer en possession de quelque chose dont elle ignore l'existence. Un individu ne peut pas être bénéficiaire d'un héritage dont il ignore l'existence. C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu est importante. Et c'est là que l'ennemi a le plus réussi. Les enseignants de la Bible qui connaissent la parole et qui croient en Dieu sont peu nombreux. La plupart d'entre eux reportent à plus tard la jouissance de l'héritage ou enseignent que c'était seulement pour le passé. Il y a pénurie d'hommes et de femmes de foi qui diront ce que la parole dit et qui s'en tiendront là. D'autres peuvent croire en la parole, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à expérimenter ce que Dieu a promis, ils n'ont pas le courage de le proclamer et d'amener les autres à entrer en possession de ce qu'eux-mêmes n'ont jamais possédé. Pour ce qui nous concerne, nous nous engageons à partager la position de Dieu concernant ce qui a été accompli par Jésus à la croix. Nous voyons ce que Dieu a accompli, Satan a été vaincu sur la croix. La victoire sur lui est possible et ouverte à tous les croyants. Ils peuvent occuper une position dominante. Le monde a été crucifié sur la croix. Le croyant peut entrer dans la victoire totale et continuelle sur le monde. Page 37. Jésus a pris avec lui sur la croix tous les péchés du monde, péchés passés, présents et à venir. Le croyant peut donc entrer dans la délivrance totale de la puissance du péché et du moi. Jésus a porté toutes nos maladies et nos péchés en son corps, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Tous les croyants peuvent donc entrer dans la guérison totale acquise sur la croix. Aussi, nous voulons souligner que, pour tous les croyants, être vaincu par Satan et ses alliés n'est pas une fatalité inéluctable. Être vaincu par le monde n'est pas une obligation. Péché n'est pas obligatoire. Être gouverné par le moi n'est pas une nécessité, porter dans notre corps des maladies n'est pas obligatoire. Vois-tu cela comme étant la parole de Dieu a dit? Connais-tu cela comme étant la parole de Dieu? Croire à ce que Dieu a accompli, tu peux savoir que la Bible offre ces choses, sans pour autant croire qu'elles sont pour toi? Il est possible de croire qu'elles sont, pour une classe très spéciale de croyants, peut-être pour les dirigeants spirituels, pour les croyants très mûrs, pour les croyants très spirituels, etc. Penser ainsi ne t'aidera pas du tout. Ce sera comme si tu abandonnais la partie. Peut-être crois-tu aussi que tu es particulièrement faible et que cela t'empêche d'expérimenter la délivrance du péché dans ton corps. Il est possible de croire que tu as besoin de tomber occasionnellement dans le péché afin d'être humble et afin de pouvoir aider les autres. En fait, ce sont là des mensonges du diable. Le péché ne peut jamais rendre quelqu'un humble. Jésus n'est pas devenu humble par le péché. Pour croire à ce que Dieu a accompli, il faut qu'un jour arrive où tu crois que ce que la Bible dit est vrai et que ce qu'elle ferait pour toi. Si tu crois que ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu a accompli pour toi, alors tu seras préparé pour la troisième étape. Page 38. S'engager dans ce que Dieu a accompli, croire à ce que Dieu a accompli sans s'engager personnellement dans cette action est insensé. Si quelqu'un croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, il prend un engagement à deux niveaux. Il consacrera au Seigneur Jésus tout ce qu'il est, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il sera, tout ce qu'il a, tout ce qu'il aura, et il choisira Jésus comme son chemin, sa vérité et sa vie. Il consacrera aussi tout ce qu'il est, tout ce qu'il sera, et tout ce qu'il aura, à la tâche suprême de faire connaître et expérimenter cette vérité à autant de personnes que possible. Sans un tel engagement radical, il n'y a aucune foi réelle en ce que Dieu a accompli. Nous allons considérer chacun des faits l'un après l'autre et voir ce que signifie, en termes pratiques, s'engager dans ce que Dieu a accompli. La défaite de Satan par Jésus sur la croix. Parce que Satan a été vaincu à la croix, tous ceux qui croient à cette réalité s'engageront à s'appliquer de tout leur être et de toute leur force à découvrir tout ce qui est de Satan et de ses œuvres. À révéler et exposer tout ce qui est de Satan, afin que ses œuvres soient vues telles qu'elles sont, sans crainte ni parti pris. À détruire avec une pleine autorité et sans crainte toutes les œuvres de Satan, en sachant que Satan, l'homme fort de la maison, a été lié, et que ses œuvres peuvent donc être détruites et ses captifs s'en aller libres. Ils doivent donc s'assurer que les captifs sont effectivement libérés et que les œuvres de Satan sont effectivement détruites. À ne jamais reculer lorsqu'il s'agit de lutter contre Satan ou l'un de ses agents, puisqu'ils savent que Satan a été vaincu sur la croix et doit être détrôné. Page 39. À faire en sorte de ne pas laisser détourner leur attention et leur énergie par des ennemis secondaires. Ils se concentrent sur l'objectif essentiel qui est de détrôner Satan lui-même. Ils refuseront de combattre les personnes ou les systèmes utilisés par Satan. Ils réserveront tous ses coups pour le diable lui-même. Car lorsqu'il sera détrôné, toutes ses autres activités s'écrouleront avec lui. Ceci est quelque chose de très sérieux. Très souvent, les enfants de Dieu s'investissent dans des choses secondaires. Prenons un exemple dans le domaine de la médecine. Quelqu'un peut s'investir dans les soins à donner aux malades atteints de paludisme. C'est une bonne chose. Une autre personne peut s'investir dans la destruction des moustiques qui provoquent le paludisme. Une autre personne peut s'investir dans l'élimination complète et totale des moustiques qui causent le paludisme. Ces trois personnes contribueront à la lutte contre le paludisme. Cependant, la chose la plus importante sera d'empêcher la naissance des moustiques qui causent le paludisme. Lorsque la reproduction de tels moustiques sera rendue impossible, alors il n'y aura plus de moustiques à détruire, ni de paludisme à soigner. C'est ce que j'appelle s'engager dans les choses primordiales. De nombreux croyants se concentrent sur des choses secondaires. Par exemple, certaines personnes travaillent pour améliorer les conditions de détention des prisonniers. Ceci n'est pas une mauvaise chose. Cependant, la meilleure chose serait d'empêcher les gens d'aller en prison, et ceci en leur donnant l'Évangile et en les aidant à venir à Christ. D'autres se consacrent à aider les alcooliques à s'arrêter de boire. Ceci aussi n'est pas mauvais. Cependant, la meilleure chose serait d'amener ces gens à Jésus, car alors ils n'auront plus de problème avec l'alcool. D'autres personnes sont engagées dans la recherche de la paix mondiale. Ils sont ardemment désireux de voir les nations et les individus vivre en paix et, dans ce but, ils établissent des chartes et font tout ce qu'ils peuvent pour instaurer la paix, mais la plupart du temps, ils échouent misérablement. Je ne blâme personne. Je dis seulement que ces efforts sont concentrés sur des problèmes secondaires. La première nécessité est d'amener les hommes et les femmes à Christ, car il est le prince de la paix. En lui, il y a la possibilité, non, l'assurance, d'une paix véritable et durable. Les personnes remplies de la véritable sagesse vont donc faire tous leurs efforts pour présenter Christ au monde. Le monde aura alors, page 40, la paix qui résulte de l'union avec Christ. Je ne vois pas d'autre solution qui soit meilleure. À s'assurer qu'il n'y a absolument rien dans ses propres pensées, paroles et actes qui contribue même d'une manière minime à la gloire de Satan. Si l'on croit que Satan est vaincu et qu'il faut qu'il soit détrôné, on ne peut pas en même temps entretenir la moindre pensée, prononcer la moindre parole ou se complaire dans la moindre action qui soutient l'activité de Satan. Faire cela relève de la plus grande hypocrisie. Finalement, frères, c'est par là que tout doit commencer. Le Seigneur Jésus a dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Il n'a rien en moi, Jean 14, 30. Frères, si Satan a une part dans nos pensées, aussi petite soit-elle, s'il a une part dans une seule de nos paroles, s'il a une part dans la moindre de nos actions, il pourra résister à sa destitution et il aura raison de le faire. Cela veut dire que chaque fois que l'on entretient une pensée illicite, que l'on prononce délibérément des paroles illicites ou que l'on fait une action illicite, nous nous mettons du côté du diable et nous combattons pour lui. Laisse-moi te poser une question solennelle. Y a-t-il quelque chose dans tes pensées qui contribue à la gloire de Satan? Y a-t-il quelque chose dans tes paroles qui contribue à la gloire de Satan? Y a-t-il quelque chose dans tes actions qui contribue à la gloire de Satan? Poursuis-tu un projet qui contribue à la gloire de Satan? Si c'est le cas, alors tu es de son côté. La défaite de Satan, comme nous l'avons déjà vu, Satan a été vaincu sur la croix. Sa défaite a été totale. Le Seigneur a fait tout ce qu'il devait faire pour y parvenir. Aujourd'hui, il cherche des gens qui vont établir, imposer et assurer sa victoire sur Satan. Il cherche des cas ouvriers. De telles personnes sont celles de qui le diable pourrait dire « Je n'ai rien en cette personne ». Elle est entièrement à Christ. De telles personnes sont celles qui peuvent dire à ma connaissance, même en y regardant de très près, « Je ne vois rien dans mes pensées ». Rien dans mes paroles, rien dans mes actions, qui contribue, même de façon minime, à la gloire et au royaume du diable, Dieu peut-il compter sur toi pour être une telle personne? Page 41. Veux-tu être une telle personne? Permettras-tu au Seigneur de faire de toi une telle personne? Permettras-tu au Seigneur de faire de toi une telle personne? Dieu désire que l'homme domine sur sa création. Le but originel de Dieu était que l'homme puisse dominer sur sa création. Il n'a pas changé sa pensée à ce propos. Il y a un homme sur le trône, le Seigneur Jésus, qui domine. Il y a des hommes sur le trône, l'Église, les croyants, qui dominent. Mais le Seigneur veut donner la domination à ceux qui sont sur terre maintenant. Ce sont les croyants dont la vie est complètement libérée de tout contrôle exercé par le diable. Es-tu engagé à travailler pour la défaite de Satan? Es-tu engagé à travailler pour la défaite de Satan par Jésus-Christ? Si tu veux t'y engager, alors il faut que le jour de ton engagement vienne, et il viendra comme un jour de crise pour toi, peut-être la plus grande crise de ton expérience chrétienne. Ce sera le résultat de la révélation que tu recevras de la défaite de Satan par Jésus-Christ et de la nécessité de détrôner Satan maintenant et de prendre autorité sur lui. En ce jour, tu diras au Seigneur aujourd'hui, je comprends que tu as vaincu Satan sur la croix et que tu lui as enlevé sa puissance. Je me repens profondément d'avoir permis aux vaincus d'occuper une part en moi et dans le monde. Pardonne-moi pour cette trahison, contre ton gouvernement et contre ton royaume. Aujourd'hui, pleinement conscient de ton appel, je m'engage à détrôner Satan. Dès ce jour, et jusqu'à ce que tu reviennes, je mets à part tout ce que je suis, et tout ce que je pourrai jamais être, je mets à part tout ce que j'ai, et tout ce que je pourrai jamais avoir, pour être à toi afin que tout cela soit utilisé, pour la défaite de Satan. Je me donne à toi, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, page 42, afin qu'elles soient les tiennes à 100%. Je ne permettrai jamais qu'aucune d'entre elles soit utilisée par l'ennemi. Je rejette toutes les mauvaises choses qui proviennent clairement du diable. Je refuse tout ce qui est neutre. Je m'engage à 100% dans ce qui contribue au renversement de Satan, que je considère désormais comme mon unique ennemi. Seigneur, tu es mon partenaire dans cet engagement. Je compte sur toi pour l'accomplir. Amen. Le monde vaincu par Jésus-Christ sur la croix, parce que le monde a été crucifié avec Christ, il n'a aucun avenir devant lui. Avant la croix, le diable avait prévu que le monde régnerait avec lui et que le monde serait une démonstration de sa puissance. Mais le monde a été placé à la croix et là, tous les espoirs que le diable entretenait pour le monde ont été anéantis. Quiconque croit à cette réalité fera les choses suivantes, demander au Seigneur de lui montrer ce qu'est le monde, son origine, sa nature, son avenir. Anéantir toute convoitise pour le monde en la faisant passer par la croix où elle doit demeurer crucifiée. S'assurer qu'il ne se laisse plus compromettre avec le monde. S'appliquer à révéler la véritable nature du monde. Utiliser le monde pour bâtir le royaume de Dieu et le faire avec un sentiment d'urgence. J'aimerais développer un aspect du monde à propos duquel je ressens un fardeau dans mon cœur pour que les chrétiens le comprennent et le voient clairement. L'apôtre Jean écrit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, page 43, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15-17. La Bible dit clairement « Celui qui aime le monde, fût-ce un temps soit peu, n'aime pas le Père ». Celui qui aime les choses du monde, même un tout petit peu, n'aime pas le Père. De nombreux enfants de Dieu pensent qu'on peut s'éloigner progressivement de l'amour du monde. Ils pensent que c'est normal d'aimer le monde à 100%, puis ensuite de diminuer graduellement cet amour à 90%, puis à 80%, puis à 70%, etc., jusqu'à ce qu'ils disparaissent un jour. Ceci est insensé. Cela ne marchera jamais. Ils pensent qu'il s'agit de diminuer progressivement leurs engagements envers le monde et d'augmenter leurs engagements envers le Seigneur et envers l'Évangile. Le monde est un système. Les choses du monde constituent ce qui maintient le système. Soit tu aimes le monde, soit tu n'aimes pas le monde. Soit tu aimes les choses du monde, soit tu ne les aimes pas. Tu peux être pauvre et pourtant aimer le monde. Tu peux au contraire sembler avoir beaucoup de bien et ne pas aimer le monde. Il y a une réponse à l'amour du monde et des choses du monde. C'est l'amour du Père. Ceux qui aiment le Père n'aiment pas le monde. Ceux qui aiment le monde n'aiment pas le Père. Personne ne peut aimer le Père à 90% et aimer le monde à 10%. Quand l'amour du monde est dans le cœur de quelqu'un, l'amour du Père est complètement absent. Cette personne pourrait bien analyser le Père. Elle pourrait très bien parler du Père. Elle pourrait avoir de bonnes intentions pour le Père. Elle pourrait faire de nombreuses bonnes choses pour le Père. Elle pourrait faire beaucoup de sacrifices pour le Père et cependant n'avoir pas d'amour pour lui. Quand l'amour du Père s'empare de quelqu'un, il n'aimera que le Père et le monde n'aura plus aucune place en lui. Oui, quand on aime le Père, le monde perd tout son attrait. Personne ne peut aimer d'une manière progressive, car aimer, c'est donner son cœur. Quand quelqu'un aime, il ne retient rien. L'objet de son amour le satisfait complètement. Quand quelqu'un aime le Père, il donne au... Page 44. Perd son cœur entier et tout son être. Il n'a soif que du Père, il ne languit que du Père et ne désire que le Père. Le son des autres voix ne l'attire pas, aussi belle que soient ses voix. Ceux qui aiment le Père triomphent du monde par cet amour-là. Quand quelqu'un applique son cœur à aimer le Père et à n'aimer que le Père, il est entré dans la victoire par l'amour du Père et cette victoire triomphe du monde. Nous avions autrefois beaucoup de choses à proposer au monde et le monde avait beaucoup de choses à nous proposer, mais quand Jésus est mort sur la croix, le monde a été crucifié pour nous et nous avons été crucifiés pour le monde. Crois-tu que tu es mort pour le monde? Si tu le crois, tu ne convoiterais pas le monde. Si tu le crois, tu aimeras le Père et tu n'aimeras que lui. Avoir tellement à offrir au monde et posséder tant de choses que le monde désire, mais pourtant donner tout cela au Père et ne rien donner au monde, c'est cela la victoire. Cette victoire triomphe du monde, car elle révèle le monde pour ce qu'il est réellement inutile pour nous. Si le croyant ne peut aimer le monde, c'est aussi à cause de l'attitude du monde vis-à-vis du Seigneur de gloire. Le monde ne l'a pas reçu. L'a rejeté. L'a méprisé. S'est moqué de lui. L'a crucifié. Le monde s'est levé contre le Seigneur comme son ennemi. À cause de notre amour pour lui, nous ne pouvons pas aimer son ennemi. De plus, notre Seigneur n'est pas dans le monde. Il n'est pas dans les choses du monde. Les choses du monde pourraient avoir une certaine valeur pour nous, mais il n'est pas dans ces choses. Parce que nous l'aimons et qu'il n'est pas dans le monde, ni dans les choses du monde, ces choses perdent tout l'attrait qu'elles pourraient avoir pour nous. Si tu aimes quelqu'un mais que cette personne est loin de toi, même si tu es invité au plus grand festin, même si l'on te rend les plus grands honneurs, tu ne pourras jamais en jouir pleinement, parce que la personne que tu aimes, page 45, n'est pas là. Si la personne bien-aimée est là, tout prend une nouvelle signification par sa seule présence. Les choses les plus simples deviennent douces parce qu'elle est là. Ainsi, parce que le Seigneur n'est pas dans le monde, les siens ne peuvent pas aimer le monde. Le monde exige que nous fassions tous nos efforts pour l'être admiré. Il dit « Fais-toi remarquer ». Le monde dit « Montre que tu es pleinement attrayant ». Attire l'attention sur ton aspect, tes vêtements, etc. Mais l'amour du Père dit « Montre que le Père est merveilleux », attire l'attention sur la bonté du Père. Le conflit est évident et il n'y a pas de terrain neutre. Ceux qui aiment le Père haïssent le monde et ses exigences. Le monde exige que nous cherchions à être admirés pour ce que nous possédons, la femme, le mari, les enfants, les biens immobiliers, l'emploi, l'argent, les diplômes, etc. Personne ne peut admirer ses biens et en même temps aimer le Père, car ils sont dans des directions opposées. Le monde dit « recherche la sécurité ». Recherche-la dans les biens immobiliers, investissements, emplois sûrs, positions élevées, etc. Le Père dit « je suis ta sécurité ». Je suis ton héritage. Je suis ton bien. Ceux qui cherchent la sécurité dans le monde ne peuvent avoir aucune sécurité dans le Père. Ceux qui croient au Seigneur doivent, page 46, lui faire confiance et lui obéir complètement et n'ont personne d'autre ni rien d'autre sur qui compter pour leur sécurité. Il est évident que personne ne peut faire confiance au Seigneur sans qu'il soit obligé de compter sur le Seigneur à 100%. Si quelqu'un dit qu'il compte à 90% sur le Seigneur et à 10% sur lui-même, son compte en banque, ses biens, ses valeurs mobilières, ses maisons, etc., c'est qu'en réalité il ne compte pas du tout sur le Seigneur. Ceux qui comptent réellement sur le Seigneur sont ceux qui n'ont personne d'autre sur qui compter. Si le Seigneur devait échouer, ils échoueraient aussi. Je veux te poser une question, comptes-tu sur le Seigneur? Comptes-tu uniquement sur lui? Sur quoi ou sur qui d'autre comptes-tu? As-tu jamais donné au Seigneur une occasion d'échouer? Sécurité. Sécurité. Mon avenir. L'avenir de mes enfants. L'avenir de l'œuvre de Dieu. S'inquiéter au sujet de ces choses, c'est être mondain. Oublier les besoins du moment présent pour s'inquiéter des besoins de demain, c'est être mondain. La nécessité de la foi, il nous est dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, 1 Jean 5, 4. Ceci veut dire que le croyant choisit délibérément de faire confiance à Dieu pour qu'il pourvoie à tous les besoins de son œuvre. Il croit que Dieu va travailler. Il ne veut rien d'autre que ce qui est donné par Dieu. Il abandonne à Dieu tout son avenir. Il croit en Dieu. Il croit à ce que Dieu donne et que, pourtant, il ne voit pas. Il ne croit pas à ce que donnent les hommes et que, pourtant, il voit. C'est cela la foi. Page 47. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Cette foi triomphe du monde. Cette foi nous conduit à aimer le Seigneur, faire confiance au Seigneur, être satisfait uniquement dans le Seigneur, voir l'invisible. La nécessité de la révélation pour aimer le Seigneur et lui seul, faire confiance au Seigneur, et à lui seul, refuser de manipuler les choses, laisser tout l'avenir entre ses mains, qu'il soit notre seule sécurité. Il n'y a pas d'autre voie que celle de la révélation de sa personne et de son œuvre. Quand cette révélation est accordée, tout change, et tout change immédiatement. Saul de Tarse a eu une révélation de Jésus-Christ sur la route de Damas. Cette révélation a eu pour résultat que le monde est devenu totalement inutile pour lui et que le Seigneur Jésus est devenu tout pour lui. Dès ce jour, il a aimé Jésus et Jésus seul. Dès ce jour, il a haï le monde et n'est plus jamais revenu en arrière pour l'aimer. Le jour vient dans ta vie, dans ton ministère et dans ta marche avec Dieu où tu recevras une révélation du Père et du monde. À partir de ce jour, tu aimeras le Père et haïras le monde. Le Père sera ta seule sécurité. Rien, dans ce que le monde tient en estime, n'aura de place dans ta vie. Mais ce jour, le jour de la révélation, viendra quand tu le demanderas. Il viendra quand tu diras: Père, quel que soit le prix à payer, révèle-toi à moi et montre-moi ce qu'est réellement le monde. J'obéirai à la lumière que tu me donneras. Philippe a dit au Seigneur: montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jean 14, page 48. 8. Et Jésus lui a répondu. Quelques Grecs ont demandé à Philippe: nous voudrions voir Jésus. Jean 12, 21, et Jésus leur a répondu. Si toi aussi, tu demandes que le Seigneur se révèle à toi, le Père te l'accordera, pourvu que tu n'aies pas désobéi aux révélations antérieures qu'il t'a accordées et que tu sois prêt à obéir à ce qu'il te montrera. Demande la révélation. Cherche la révélation. Réponds à la révélation. Le péché est le moi crucifié le Seigneur Jésus, a porté le péché du monde entier à la croix et y a mis fin. Il a aussi pris notre ancienne nature et l'a crucifiée sur la croix. Si quelqu'un croit à cette vérité, il va demander au Seigneur de lui révéler que tout son péché a été jugé et qu'il ne sera plus jamais jugé pour cela. Demandez au Seigneur de lui révéler que son corps de mort a été crucifié une fois pour toutes. Cessez immédiatement de commettre tout péché, demeurez libre de tout péché et refusez de céder aux tentations du diable. Coopérez avec le Saint-Esprit et constatez par là que le péché et le moi n'ont plus de puissance sur lui. L'héritage du croyant, c'est la délivrance totale du péché. L'héritage du croyant, c'est une vie libérée de la puissance du moi. C'est là l'héritage du croyant. Il faut y croire, et le croyant doit s'y engager lui-même. Il faut que le jour vienne dans la vie du croyant, où il recevra la révélation du caractère horrible du péché, de l'horreur du moi, du fait que le péché et le moi font progresser le royaume de Satan d'une manière réelle. Page 49. Du fait que tous ceux qui continuent à vivre dans le péché périront avec le diable. Alors, ce jour-là, il va décider que le péché et le moi dans sa vie sont abolis. Désormais, il va vivre dans la sainteté en pensée, en parole et en acte, et il ne fera rien qui vienne du moi, que ce soit l'auto-séduction, la justification de soi, la défense de soi, etc. Le croyant s'engagera dans la prière en disant au Seigneur, Seigneur Jésus, tu as pris tout mon péché sur la croix et tu m'as délivré de tous mes péchés. J'entre maintenant dans cette délivrance totale que tu as acquise pour moi. Dès maintenant et jusqu'à ce que tu reviennes, je n'aurai plus rien à faire avec le péché, aussi petit soit-il. C'en est maintenant fini du péché dans ma vie ? Seigneur Jésus, tu as aussi pris mon vieux moi sur ta croix. Dès ce jour, je m'abandonne à toi, je décide de vivre pour toi. Je vivrai pour les autres, je ne vivrai plus pour moi-même. C'est une chose très sérieuse que de prendre cet engagement.